D'abord les textes liturgiques pour ce dimanche de la Septuagésime, l'épître tirée de saint Paul aux Corinthiens. Mes frères, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Or tous ceux qui combattent dans l'arène s'abstiennent de tout, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous pour une incorruptible. Moi donc je cours. Et non comme au hasard, je combats, et non comme frappant l'air, mais je châtie mon corps et je le réduis en servitude de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé. Car je ne veux pas que vous ignoriez, mes frères, que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous, sont tous passés à travers la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient au rocher spirituel qui les suivait, ce rocher était le Christ. Cependant, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. On se lève pour l'Évangile, suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. Dans ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à un père de famille qui sortit de grand matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Étant convenu avec les ouvriers d'un denier par jour, il les envoya à sa vigne. Sortant vers la troisième heure, il en vit d'autres qui se tenaient oisifs sur la place publique. Et il leur dit, « Allez-vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. » Et ils y allèrent. Il sortit encore vers la sixième et vers la neuvième heure, et il fit de même. Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui se tenaient là. Et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici tout le jour sans rien faire ?» Ils lui dirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, allez-vous aussi à ma vigne. Lorsque le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelez les ouvriers, payez-leur le salaire, en commençant par les derniers, en finissant par les premiers. Ceux qui étaient venus vers la onzième heure vinrent donc et reçurent chacun un denier. Les premiers venant ensuite crurent qu'ils recevraient davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Et en le recevant, ils murmuraient contre le père de famille, disant, « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et vous les avez traités comme nous qui avons porté le poids du jour et de la chaleur. » Mais il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne vous fais point de tort. N'êtes-vous pas convenu avec moi d'un denier? Prenez ce qui vous appartient, allez-en, allez-vous-en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à vous. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux? Ou votre œil est-il méchant parce que je suis bon ?» Ainsi les derniers seront les premiers seront les derniers, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Veuillez vous asseoir. Alors, attention, cette semaine, je n'aurai pas de messe ici vendredi et samedi. Je vais sur Andorre pour la mission mensuelle. Donc mardi, ce sera la fête de la présentation, la grande fête de la Chandeleur. Donc je bénirai quelques cierges. Je vous en donnerai, vous les aurez. Si vous ne pouvez pas venir à la messe mardi, donc vous pourrez les avoir dimanche prochain. Le mercredi, c'est la fête de Saint-Blaise, le 1er, le 3 février. Vous savez que c'est une tradition de bénir avec les cierges à la Pentecôte et la bénédiction des gorges, le 3. On a le droit de le refaire le dimanche. Donc si vous ne pouvez pas venir à la messe le 3 pour recevoir cette bénédiction, je vous donnerai cette bénédiction spéciale pour les gorges le dimanche prochain, donc pour la sexagésime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous commençons une nouvelle période liturgique qui est une période intermédiaire entre les joies du temps de Noël, du temps d'Épiphanie et l'austérité du carême. Donc il y a déjà des signes de pénitence, couleur violet, symbole de la pénitence que porte le prêtre. Il n'y a plus d'Alléluia, on supprime le Gloria pendant la messe. Mais il y a encore les fleurs sous l'autel, pas encore le jeûne. Mais on commence déjà à se préparer psychologiquement, je dirais, à l'arrivée du carême. Le carême commence avec le mercredi décembre, cette année, je crois que c'est le 17 février. Et en ce texte liturgique, l'Église nous parle de choses positives et de choses négatives, des bonnes nouvelles et des mauvaises. On va commencer par les mauvaises. On finira par les bonnes. Mauvaise nouvelle, qu'est-ce que nous dit l'oraison? L'oraison d'aujourd'hui résume parfaitement tout ce qu'il faut faire pendant ce temps de la Septuagésime. Qu'est-ce que nous dit l'oraison? L'oraison nous dit qu'il faut que nous sommes justement affligés pour nos péchés. Et la partie positive qu'on expliquera après, soyons miséricordieusement délivrés par la gloire de votre nom, ô Seigneur. Alors commençons par la première partie. Nous sommes justement affligés pour nos péchés. Heureusement qu'on est affligés pour nos péchés. Imaginez que nous ne soyons pas affligés à cause de nos péchés. On a beaucoup de mal pour se convertir. Donc le bon Dieu qui nous aime, même si nous sommes des pécheurs, les pécheurs sont toujours des enfants du bon Dieu, quand ils sont baptisés. Eh bien, le bon Dieu nous afflige, nous donne des épreuves, parce que nous sommes un peuple à la nuque raide, vous et moi. Alors, le bon Dieu nous afflige pour nos péchés. Et des tas de gens peuvent se convertir à cause de ces afflictions. Prenez l'exemple classique, c'est l'enfer. Est-ce que l'enfer est un mal? En soi, oui. Personne ne pourrait dire que la peine du sens, des sens, le feu de l'enfer, la peine du temps, jamais voir Dieu pour toute l'éternité, sont des choses bonnes en soi. Strictement parlant, ce sont des choses mauvaises. Cependant, le bon Dieu, dans sa miséricorde, utilise l'enfer pour convertir des tas de gens. Et les pères disaient, j'aime beaucoup l'expression des pères, ils disaient, l'enfer est une création de la miséricorde du bon Dieu. L'enfer, le grand missionnaire du ciel. Pourquoi? Parce que des millions de gens se sont convertis par peur de l'enfer. Certes, ce qu'on vise, c'est la conversion à cause de l'amour du bon Dieu, mais comme justement, comme je viens de vous le dire, on est un peuple à nuque raide, souvent le bon Dieu commence justement par nous permettre le changement de vie qui est nécessaire pour des raisons, je dirais, négatives, à savoir la peur de l'enfer, pour nous amener lentement à l'amour du bon Dieu. Et je pense qu'on ne comprend pas ces choses-là. Beaucoup de gens se sont convertis, par exemple, avec l'annonce d'une maladie, avec la perte d'un être cher, parfois avec des complications terribles dans leur propre corps. J'ai connu des gens qui étaient des bandits et qui sont complètement convertis parce que un beau jour, ils sont revenus positifs, avec une maladie terrible. Et puis ça a été le début de leur conversion. Ils ont fini très bien une vie qu'ils avaient très mal commencée. Beaucoup de saints ont très mal commencé leur vie. Ils ont tous très bien terminé. C'est pour ça qu'ils sont canonisés. Saint Augustin, c'était pas très brillant au début. Sainte Marie-Madeleine, n'en parlons pas. Mais ils ont bien fini. Donc le bon Dieu qui nous aime permet justement des épreuves terribles. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'y pense pas assez. On voit très bien dans le monde moderne comment il y a une espèce d'acharnement, littéralement. On a l'impression que le démon se libère actuellement partout dans le monde entier. On voit de plus en plus de lois contre l'Église, de plus en plus de lois contre la famille, de plus en plus de lois contre l'enfance, de plus en plus de lois contre la loi naturelle, partout, partout. Et je crois qu'on oublie un peu de considérer que ces épreuves, ces afflictions, sont pour nous un moyen de nous purifier du péché. Un moyen de nous purifier du péché, reprenons encore cette phrase de l'oraison, nous sommes justement affligés à cause de nos péchés. Donc c'est justement le mot important, c'est le mot justement. Le bon Dieu, dans sa miséricorde, utilise toutes ces catastrophes qui sont autour de nous, utilise toutes ces catastrophes qui sont autour de nous pour nous obliger à nous mettre à genoux. Nous mettre à genoux. Et moi, en tant que prêtre, je le vois en ce moment. De nombreuses personnes qui, peut-être, avaient un peu oublié le bon Dieu, avaient oublié la vie de prière, oublié les sacrements depuis un certain temps, eh bien, en voyant quand même tout ce qui se passe, en voyant ces catastrophes politiques, ces catastrophes économiques, cette crise de tous les côtés, eh bien, ils finissent par se rappeler qu'il y a un bon Dieu. Vous connaissez l'expression? Quand les bombes commencent à tomber, on cherche spontanément la porte de l'église. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Pour prendre aussi un exemple à propos de ces bombes, une guerre en tant que telle, c'est quelque chose de bon ou de mauvais? En soi, c'est quand même quelque chose de mauvais. Eh bien, grâce à certaines guerres, des millions d'âmes se sont sauvées. Quand on lit par exemple les commentaires des prêtres Sakodo, les prêtres que le gouvernement antichrétien, déjà pendant la Première Guerre mondiale surtout, et même la Deuxième Guerre mondiale, avait mis en plein au fond des combats, ces prêtres disaient qu'il y a des millions de jeunes qui ont commencé la guerre vraisemblablement à un tas de péchés mortels jusqu'au cou, et qui se sont convertis justement parce qu'ils voyaient tous leurs camarades tomber comme des mouches pendant les combats. Et ces prêtres, qui étaient tous dans les services infirmiers, ont passé des heures et des heures à donner l'absolution, à absoudre les gens, donner l'extrême-onction dans les champs de combat. Et des millions de personnes se sont converties. Eh bien, on le voit très bien aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose. Donc il ne faut pas voir simplement, il faut essayer de juger les choses, porter un regard chrétien sur ces événements. Comment voulez-vous que le monde marche puisqu'on a mis le bon Dieu dehors? Si le monde marchait très bien, tout était dans la paix, dans la joie, dans l'allégresse, on pourrait dire, mais alors à quoi il sert le bon Dieu? On a mis soigneusement le bon Dieu de dehors, on le met dehors des institutions, on le met dehors des écoles, on le met dehors des lois, on le met dehors partout. Évidemment, tout s'écroule. Pas simplement sur le plan moral, mais aussi sur le plan économique. Eh bien, encore une fois, utilisons ces choses-là pour essayer de revenir vers le bon Dieu. Et c'est le but de la Septuagésime, c'est le but de tous ces temps de pénitence, nous obliger, nous humilier pour nous permettre une conversion réelle. C'est comme ça qu'il faut entrevoir les choses. Encore une fois, on vous demande pas, le bon Dieu ne nous demande pas de nous réjouir des maux qui nous arrivent, mais de comprendre que ces maux sont un moyen de nous rapprocher du bon Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire justement dans les circonstances comme cela? Je pense qu'il faut protéger nos arrières. Protéger surtout la foi, l'intelligence et la volonté. D'abord, puisque nous sommes en guerre, quand on commence une guerre, qu'est-ce qu'on fait? On commence par vérifier ses armes. Que les fusils sont en bon état de fonctionnement, qu'il y a suffisamment de munitions pour tout le monde, c'est évident. Et là, il faut vérifier nos armes spirituelles. D'abord, protéger la foi. Il ne faut pas se faire d'illusions. Toutes ces attaques que nous voyons autour de nous, en fait, c'est Dieu qui est visé. C'est Dieu qui est attaqué. Et donc, il faut d'abord protéger la foi. Comment protège-t-on notre foi catholique? On protège la foi catholique d'abord par la prière. La prière est un moyen de conversion extraordinaire. Pourquoi? Parce que la prière est ce qu'utilise le bon Dieu contre l'orgueil. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le fruit de l'orgueil. L'homme moderne qui se dresse devant Dieu comme Lucifer en disant: Je ne servirai pas. Eh bien, contre cet orgueil, font la prière. La prière humilie. J'aime beaucoup cette expression, qui dit que c'est quand l'homme sait se mettre à genoux qu'il devient grand. Et c'est vrai. Tant qu'on ne sait pas se mettre à genoux, qu'on refuse de se mettre à genoux, on ne peut pas devenir grand devant Dieu. L'homme grandit, se grandit dans son âme quand il sait se reconnaître son néant devant Dieu. Et donc d'abord, la vie de prière. Et la vie sacramentelle, bien sûr. Puisque la grâce, normalement, passe par les sacrements. Le canal habituel par lequel le bon Dieu nous donne les grâces dont nous avons besoin, c'est le sacrement de pénitence d'abord, puis le sacrement de la Sainte Eucharistie. Donc dans les temps difficiles, les temps de guerre, nous sommes en plein dedans, la prière, la confession, la communion, la messe. À ce moment-là, nous recevons les grâces dont nous avons besoin. Et si nous protégeons notre foi ainsi, la charité va pouvoir venir. La charité ne peut pas exister sans la foi. Pas de foi, il n'y a pas de charité. Il peut y avoir la foi sans la charité, mais l'inverse, ce n'est pas possible. Donc si nous voulons que la charité vive en nous, et c'est le but de notre vie sur la terre, on est sur la terre pour aller au ciel. Se préparer à aller au ciel. Comment on se fait pour se préparer à aller au ciel? On se prépare à aller au ciel par la vertu de charité, c'est évident. L'habitation en nous de la Sainte Trinité. Et donc la foi ouvre la porte à la charité. Il faut aussi protéger notre intelligence. Il ne suffit pas simplement de protéger la foi. Il faut protéger l'intelligence parce que la grâce détruit pas la nature. Comment est-ce qu'on protège notre intelligence? Protège notre intelligence par l'étude, d'où l'importance d'étudier notre foi. Peut-être utilisons cette période liturgique de la Septuagésime pour reprendre un peu un catéchisme. J'ai mis beaucoup de choses sur le site d'Anne Marie. Ceux qui m'écoutent sur Internet le connaissent bien, vous aussi. Et donc, il est peut-être nécessaire, dans certains cas, de se remettre un peu à l'étude du catéchisme. Rien ne vous empêche de profiter de ce temps de pénitence, de la Septuagésime, puis du carême qui va bientôt arriver, pour, par exemple, réécouter, ou écouter, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, tous les cours audio de catéchisme qui sont sur le site. Il y a 110 cours, ou 117 cours même, pour reprendre tout le catéchisme traditionnel. Je mets toutes les semaines un cours aussi d'exégèse. Il y a beaucoup, beaucoup de choses sur ce site. Je ne dis pas ça pour me vanter, mais ce site, il est fait pour vous, il n'est pas fait pour moi. C'est des choses que je connais. Mais justement, j'ai mis, il y a presque un millier de conférences, de sermons en tout, justement pour aider les gens à travailler. Et obligeons-nous à travailler pour étudier notre foi. Vous connaissez bien votre foi, déjà votre catéchisme? Ben allez sur l'étude de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, il y a aussi à peu près 160 conférences sur l'étude de l'exégèse de l'Écriture sainte, des évangiles, ou l'étude de toute une série, il y a toute une série aussi de conférences de doctrine. Travaillons, travaillons, travaillons pour protéger notre foi. Puis aussi protéger sa volonté. La volonté, qu'est-ce qu'elle contrôle? Le cœur, les affections. Le cœur a tendance à s'emballer. Le bon Dieu nous a donné un cœur pour pouvoir faire ce qu'on veut. Avec le cœur, qu'est-ce qu'on fait? On aime. Faut savoir aimer quand il faut, comme il faut, et les personnes qu'il faut. Les gens qu'on a le droit d'aimer, les gens qu'on n'a pas le droit d'aimer. Vous avez le droit et le devoir d'aimer votre épouse, vous n'avez pas le droit d'aimer l'épouse du voisin. C'est évident. Et donc, il faut apprendre à dominer nos affections. Et on sent très bien aujourd'hui que c'est au niveau affectif que les gens partent dans tous les sens parce que justement ils n'apprennent plus à dominer leur cœur. S'il fallait caractériser les médias actuels, que ce soit les médias télévisés, les médias écrits, comme on dit, de grande couverture, les médias officiels, qu'est-ce qui caractérise tous ces médias? Le mensonge. Mentez, 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 il en restera toujours quelque chose. Ils mentent tout le temps. Que ce soit la télévision, que ce soit les grands journaux, tout le monde ment là-dedans. Alors évidemment, comment voulez-vous qu'on arrive à s'y retrouver? Donc il faut justement utiliser notre volonté pour aller chercher les informations dans des endroits où justement il n'y a pas ces mensonges. C'est pour ça qu'il faut utiliser notre intelligence pour aller chercher les renseignements là où ils sont et ne pas accepter tous ces mensonges pour ne pas perdre la paix intérieure. Comment voulez-vous qu'on garde la paix intérieure si on accepte tous les mensonges du monde moderne? Donc on protège sa foi, son intelligence et sa volonté. Et si on protège la foi, l'intelligence et la volonté, à ce moment-là, on pourra utiliser la deuxième information qui nous est donnée par l'oraison d'aujourd'hui. Soyons miséricordieusement délivrés par la gloire de votre nom, ô Seigneur. Donc, dans la mesure où je vis en état de grâce, dans la mesure où je protège ma foi, mon intelligence et ma volonté, eh bien, je vais pouvoir utiliser la grâce du bon Dieu pour me purifier et justement augmenter en moi la gloire du bon Dieu. Dans l'épître d'aujourd'hui, il y a aussi un avertissement de saint Paul qui peut piquer les vers, comme on dit vulgairement. Saint Paul nous rappelle qu'il y a beaucoup de. L'évangile va dire la même chose, il y a beaucoup, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Saint Paul nous rappelle qu'avec la plupart des gens qui prétendent suivre notre Seigneur Jésus-Christ, on n'était pas très satisfait. La dernière phrase de l'épître d'aujourd'hui. Saint Paul aux Corinthiens, que beaucoup ne furent pas agréables à Dieu. À quoi Saint Paul fait référence là, fait allusion? Il fait allusion à tous ceux du peuple juif qui ont quitté l'Égypte dans leur voyage, dans leur longue pérégrination pour venir en terre promise. Mais sur les 600 000 ou plus juifs qui ont quitté l'esclavage d'Égypte, il y en a sur ces 600 000 qui ont quitté, qui sont arrivés en Égypte, qui sont arrivés en terre promise? Deux. Caleb et Josué, c'est tout. Tous les autres sont morts dans le désert. Bon, il y a beaucoup qui sont arrivés en terre promise, c'est tous ceux qui sont nés dans le désert. Mais ceux qui ont quitté, de ceux qui ont quitté l'Égypte, que deux personnes ont pu voir la terre promise, Caleb et Josué. Même Moïse, le grand Moïse, pourtant le plus grand législateur du peuple hébreu, même Moïse n'a pas pu voir. Il a vu la terre promise de loin, mais il n'a pas pu y pénétrer. Une autre allusion, évidemment, c'est l'arche de Noé. L'arche de Noé, il n'y a pas grand monde, hein. Il y avait qui? Noé, son épouse. Il y a trois enfants, Sem, Cam et Japhé, et leurs épouses. 8 personnes. Bon, ça ne veut pas dire, l'Église n'a jamais enseigné que tous ceux qui n'étaient pas dans l'arche de Noé ont été perdus en enfer. L'Église n'a jamais enseigné ça. Il faut espérer que quand les hommes qui pensaient qu'à s'amuser ont commencé à avoir les eaux qui commençaient à monter sérieusement, et qui se sont retrouvés sur le toit de leur maison avec l'eau jusqu'au cou, peut-être qu'un certain nombre ont commencé à demander pardon, mon Dieu, pour leur vie. Il faut espérer. Donc, encore une fois, le bon Dieu utilise toutes ces choses-là. Mais avec la plupart, nous dit Saint-Paul, la plupart n'étaient pas agréables à Dieu. Donc, il faut se poser la question, est-ce que je suis agréable à Dieu? Est-ce que dans mon comportement, ma façon de penser, ma façon de vivre, est-ce que je plais au bon Dieu, ou est-ce qu'au contraire, Dieu se détourne avec horreur de ma vie de tous les jours parce que je me moque de lui en longueur de journée? Alors, il y en a qui vont dire, monsieur l'abbé, moi j'arrive en retard. Alors là, il y a la bonne nouvelle de l'évangile. Heureusement qu'il y a cet évangile. Les ouvriers à dernière heure. Donc il y avait une journée de travail. La journée de travail chez les juifs, ça commençait à 6h le matin, ça finissait à 18h. Bon. Alors il y en a qui arrivent à 16h, et puis il y en a qui arrivent à 11h. 11h, c'est quoi? C'est 5h de l'après-midi, c'est un peu tard pour se mettre au travail. Eh bien, qu'est-ce que nous dit Saint Matthieu? Que les ouvriers de la dernière heure sont payés comme les ouvriers de la première heure. Ils recevaient aussi le denier. Ça, c'est une consolation extraordinaire pour nous, parce qu'on est souvent les ouvriers à la dernière heure, parce qu'on s'est converti sur le tard, parce qu'on a gaspillé nos grâces, on a gaspillé des tas de choses, on a vécu comme un cochon peut-être pendant plusieurs années, Dieu connaît nos vies à chacun d'entre nous. L'important, c'est pas... Le bon Dieu ne juge pas sur le point de départ, il juge sur le point d'arrivée. Encore une fois, reprenons les deux exemples que je vous ai donnés en début de ce sermon. Prenez Saint Augustin, prenez Sainte Marie-Madeleine. Ils ont très mal commencé, mais très bien fini. C'est ça que Dieu juge. Et c'est pour ça que les ouvriers de la dernière heure seront payés comme les ouvriers de la première heure. Ceci doit nous être pour nous une source de joie extraordinaire. Il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard pour bien faire. Parfois, on a des gens qui nous téléphonent, qui nous envoient des messages, qui viennent nous voir, Monsieur l'abbé, j'ai gaspillé tout mon temps. J'arrive à 60 ans et puis, j'ai vécu comme un cochon pendant toutes ces années. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que vous devez faire? Vous mettre à genoux? Voilà ce que vous devez faire. Vous mettre à genoux confessionnel, commencer par dire au bon Dieu, pardonnez-moi mon père parce que je suis un pécheur. Ah, monsieur l'abbé, j'en ai fait des vertes et des pas mûres. Très bien, je spécialise dans les vertes et les pas mûres, comme on dit. Bien, vous êtes le bienvenu. Le bon Dieu accueille le pécheur. Il est venu pour eux. Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour ceux qui sont bien portants? Pas du tout, il est venu pour les malades. Nous sommes tous des malades. Mais je suis un ouvrier de la dernière heure. Ne vous inquiétez pas, les ouvriers de la dernière heure, encore une fois, seront payés comme les ouvriers de la première heure. Alors, utilisons, mes bien chers frères, ce temps de pénitence. Les ouvriers de la dernière heure sont payés comme les ouvriers de la première heure, à condition qu'ils soient venus travailler. Ils sont venus travailler, même s'ils sont arrivés à 5 heures d'après-midi, mais ils sont venus travailler. Par contre, ceux qui n'ont pas voulu travailler, qui étaient en train de, comme le dit l'Évangile, qui étaient oisifs sur la place du village, ils disent « Ah, nous, on ne travaille pas, on refuse de travailler », ceux-là, ils n'ont pas reçu le denier. Hier, ceux-là ne sont pas sauvés. Mais les ouvriers de dernière heure sont sauvés. Nous sommes des ouvriers de dernière heure, souvent. Alors ne nous décourageons pas. Et utilisons celle qui vient nous chercher. Quelle est celle qui va chercher, c'est expliqué dans l'Évangile, le serviteur qui va chercher ceux qui traînent à droite et à gauche sans rien faire et qui les amène à la vigne pour travailler sur la vigne du maître, c'est la très sainte Vierge Marie. Celle qui est représentée là, elle va chercher les gens par la peau du cou littéralement et les ramène un par un à la vigne de son fils. Même si c'est la dernière heure. L'important c'est que nous soyons au travail au moment où le bon Dieu vient nous chercher. Alors passons par la Très Sainte Vierge Marie, mes bien chers frères. Et si nous comprenons peut-être que nous avons bien fait des bêtises dans le passé, il faut utiliser ce temps de la Septuagésime pour se préparer au temps de carême. La meilleure façon de se préparer au temps de carême qui arrive maintenant bientôt, dans 15 jours, 17 jours, c'est le carême, eh bien, c'est justement de passer par la Très Sainte Vierge Marie, lui demander l'aide dont nous avons besoin pour apprendre à nous agenouiller. Ce que fait la Sainte Vierge, elle nous apprend à nous agenouiller devant son divin Fils. Faire une bonne confession, c'est parfois la meilleure façon de se préparer au carême. En demandant toutes ces choses, par l'intermédiaire de la Très Sainte Vierge Marie, elle est pleine de bonté, elle est notre bonne mère du ciel, elle va nous aider justement à retrouver le contact avec son divin Fils. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.